notre intuition, l'émission sourcée qui chamboule ce que nous croyons.
Un héros ou une héroïne, c'est quoi pour vous?
C'est une personne qui sauve une vie, une personne qui en sauve 10. Si vous agréez à une de ces deux définitions, alors nous pouvons être des héros, vraiment. Et ça, c'est grâce à notre chance. C'est grâce à la chance qu'on a eue au loto de la vie, en naissant en Occident, en naissant en France, en étudiant. Pourquoi la France? Pourquoi les études? Pourquoi l'Occident sont-elles une chance, me direz-vous? Pour y répondre, je vous propose qu'on se plonge dans trois des ressources pouvant faire de nous des héros. Notre argent, notre carrière et notre influence sociale. L'argent est probablement l'une des ressources que l'on néglige le plus, nous permettant d'être un ou une héroïne. Même si c'est peu glamour, je vous l'accorde, par votre naissance en Occident, si vous gagnez le SMIC ou un salaire de normalien et que vous êtes seul, vous faites partie des 10% les plus riches au monde. Grâce au pouvoir d'achat que cela vous offre, vous avez la capacité de sauver une vie en bonne santé tous les 2 ans à 4 ans en donnant 10% de vos revenus. Vous m'avez bien entendu, une vie en bonne santé tous les 2 à 4 ans, donc 10 vies tous les 20 à 40 ans si vous donnez 10% de vos revenus. D'après GiveWell, qui est une organisation qui étudie l'impact d'autres associations, l'organisation Malaria Consortium parvient à sauver une vie en plus en moyenne tous les 3 à 5 000 dollars supplémentaires grâce à un programme de prévention de la malaria. Dans la méthodologie utilisée par GiveWell, pour arriver à tel chiffre, quelques éléments m'ont personnellement convaincu de la pertinence de leurs calculs. Les preuves utilisées tout d'abord sont souvent des RCT, Random Controlled Trials, c'est-à-dire des expériences où on prend deux groupes aux caractéristiques similaires, on applique un traitement sur l'un, dans ce cas le programme de prévention, sans rien faire sur l'autre, et on voit les résultats. En l'occurrence, 7 RCT ont été réalisés sur des traitements similaires à ceux prodigués par le Malaria Consortium. GiveWell s'intéresse aussi au caractère extensible du programme qu'il nomme Room for More Funding. L'idée est que même si un programme est très efficace, il n'est pas évident qu'avec 1000 euros de plus, il soit plus efficace. En effet, il pourrait être contraint par le manque de manœuvres qualifiées ou par le caractère localisé de son intervention. Par conséquent, pour s'assurer que 1000 euros supplémentaires soient utiles, il est important de s'assurer que le monde dans lequel ces 1000 euros ont été donnés est vraiment différent par rapport au monde où ils n'auraient pas été donnés, qu'on nomme le contrefactuel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire que si on avait eu moins de chance au loto de la vie, ce qui séparerait en espérance la vie de la mort de certains de nos proches aurait été 3000 euros, soit le prix d'un aller France-Tahiti en haute saison. L'ordre de grandeur de ce nombre m'a personnellement sérieusement fait réfléchir aux dépenses qui augmentaient mon bonheur et à celles dont je pouvais me passer. Le second élément important pouvant nous permettre de devenir un héros ou une héroïne, c'est la carrière. On passe 80 000 heures de notre vie à travailler en moyenne. Du coup, si on améliore légèrement l'allocation de ces 80 000 heures, c'est-à-dire qu'on les rend plus utiles, ça peut avoir des impacts très élevés. A fortiori pour ceux et celles qui jouissent d'un statut reconnu, les normaliens par exemple, à tort ou à raison. Je vais maintenant préciser ce que j'entendais par améliorer. Tout d'abord, améliorer à la marge, c'est-à-dire qu'est-ce que moi j'ajoute à tout ce qui se fait déjà. Ainsi, si des millions de personnes travaillent déjà sur la même tâche que moi, ai-je une plus forte valeur ajoutée que si je travaille sur quelque chose que très peu de personnes font? Probablement pas. À moins que je sois exceptionnellement doué dans la première tâche. La seconde idée, c'est d'améliorer contrefactuellement notre impact, c'est-à-dire améliorer la différence d'impact entre le monde où on réalise une carrière X et le monde où on réaliserait une carrière Y. Je donne un exemple. Imaginons que j'hésite entre devenir médecin et chercheur en biologie. Pour les médecins, comme il y a un numerus clausus et comme la formation est déjà beaucoup demandée, si je ne deviens pas médecin, quelqu'un d'à peine moins bon que moi le deviendra. Du coup, à moins que je sois un médecin très doué, par exemple du fait de talents sociaux importants, mon impact contrefactuel n'est pas très élevé. Au contraire, le chercheur en biologie a une plus grande marge de manœuvre dans ce qu'il fait, ne serait-ce que par le choix de ses sujets de recherche. Donc si je deviens chercheur en biologie et que j'ai de bonnes idées, mon impact contrefactuel aura tendance à être significativement plus grand. façon plus générale, ce dont on s'aperçoit, c'est que les gens très bons dans leur métier sont significativement meilleurs que la plupart des autres personnes du métier. On retrouve un résultat proche du principe de Pareto qui nous indique que dans beaucoup d'endroits, 80% des effets sont le fruit de seulement 20% des causes. Améliorer, c'est bien joli, mais comment qu'on fait ça, me direz-vous? Eh bien, gros teasing. Ça prend du temps de développer, donc je ferai ça dans un épisode futur. Si vous deviez retenir une chose, c'est qu'il existe un certain nombre d'améliorations qui permettent à la fois d'augmenter votre bonheur au travail et votre impact sur le monde. Il n'y a donc pas toujours de dilemme entre être heureux soi-même et aider davantage les autres. Le troisième facteur important pouvant faire de nous un héros ou une héroïne, c'est notre effet sur les autres, notre influence sociale. Par nos comportements et par nos messages, nous avons la faculté d'affecter d'autres personnes, leur mode de vie et leurs pensées. Imaginez que vous convainquiez ou contribuiez à convaincre quelques personnes de donner une part constante de leurs revenus. Cela pourrait s'avérer aussi efficace que de vous-même donner 30% de vos revenus. L'éthique individuelle n'est donc pas à négliger car elle peut vraiment être significative, surtout une fois que l'on prend en compte le fait qu'on aura tendance à être plus influent si notre action est alignée avec notre message. Mais plus encore que pas notre quotidien, nous avons la possibilité d'affecter à plus large échelle le monde qui nous entoure. Et ce, en grande partie grâce au fait que nous soyons nés en France. La France est un pays peu peuplé mais influent, donc avec une grande influence par tête, ce qui nous permet d'avoir une influence potentielle sur le monde disproportionnée. Par ailleurs, la liberté d'expression est en vigueur, ce qui nous autorise à partager des idées pouvant aussi être influentes. De ces deux caractéristiques découle le fait que nous pouvons avoir une influence importante sur le monde, que cela soit en communiquant par un blog, par un podcast, par une chaîne YouTube ou du journalisme, ou en affectant le débat public par la politique ou la recherche. Un grand pouvoir impliquant de grandes responsabilités, cela signifie en contrepartie que si nous disons des choses fausses ou orientons les politiques publiques françaises dans un mauvais sens, cela serait d'autant plus néfaste. Ne sous-estimons pas ce pouvoir et son ambivalence. En résumé, nous avons trois façons de devenir dès aujourd'hui un peu plus l'héros ou l'héroïne qu'on peut aspirer à être. La première manière, c'est de sérieusement considérer donner quelques pourcents de nos revenus si nous pensons qu'ils ne nous sont pas nécessaires. L'organisation Giving What We Can peut nous aider dans cela en nous permettant de faire des promesses de dons comprises entre quelques pourcents de façon temporaire à 10% de façon permanente. Figurez-vous que plus de 5 000 personnes ont déjà promis de donner 10% de leurs revenus tout au long de leur vie. Nous pouvons donc les rejoindre et rejoindre cette communauté. La seconde manière, c'est de nous poser et réfléchir à nos atouts et à la meilleure façon de les convertir en carrière à la fois utile et épanouissante. Faire des stages peut aussi être une bonne façon d'explorer les possibles et de se découvrir davantage. Cultiver ses compétences transférables d'une carrière à l'autre, enfin, est aussi une piste intéressante. Enfin, faire un état des lieux de ce qu'on pense savoir mieux que la moyenne, et notamment des personnes présentes dans le débat public, et réfléchir à la façon dont on peut le diffuser si l'on pense que cette connaissance augmenterait la qualité des décisions prises par d'autres individus, voire dans les politiques publiques, peut être intéressant.